Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle émission, à voix haute, je vous proposerai de découvrir à chaque fois un auteur à travers un de ses livres. Alors pour la première de cette émission, c'est un texte d'Emmanuel Favier que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. Il s'intitule « La dernière toile ». Il est extrait d'un recueil dont le titre est « Toutes ces choses qui passent ». Il est publié aux éditions Rhubarbe, c'est une petite maison. Nous fêtons la rentrée littéraire de manière un peu plus buissonnière, mais je signale qu'à côté de ce recueil de nouvelles, Emmanuel Favier vient de publier aux éditions Albin Michel un impressionnant roman, La part des cendres. Mais aujourd'hui, place à la dernière toile. La dernière toile. Pourquoi est-ce à vous que je viens parler d'elle alors que le jour s'épuise à trouer l'épaisseur des vitraux, vous en qui je ne crois plus, vous qui devez m'accompagner chaque jour sur un chemin que jamais vous n'avez emprunté, car vous ne savez rien de l'amour, rien des hommes. Et surtout, vous n'existez pas, je le sais. Et pourtant, je vous parle. J'articule dans les fissures de ma cloison des mots que je ne peux offrir à personne, et encore moins à celles à qui ils sont destinés, celles qui les forment sur mes lèvres blanchies par le plâtre qui s'écaille et des éclats duquel je me repais, comme d'une punition sèche, ou peut-être, si je suis franc, comme de l'idée de la poudre que peut-être elle mettrait sur son visage pour me plaire. Si seulement il nous était donné de nous voir, nous toucher, nous effleurer seulement d'un souffle, ne pas même y songer, son corps près du mien déferait l'aube, étreindrait les vigiles dans un grincement, reculerait les laudes accomplies et vomirait l'Eucharistie après vêpres. Rien ne laissait présager ces événements qu'inaugura, il y a bientôt 7 mois, la venue à notre monastère d'un peintre au pinceau affaibli, qu'un gouvernement en mal d'artistes officiels avait consenti à subventionner pour effectuer chez nous une résidence de création. Fort de notre imperméabilité aux bassesses de ce monde, nous nous étions gaussés avec bienveillance, mes frères et moi-même, de l'oxymorique appellation, persuadés que la création divine comme humaine se satisfait mal de la sédentarité. Ainsi, nous attendions-nous à rencontrer un de ces blasés du monde terrestre, feignant d'un air éperdu la nécessité de l'isolement et du retour aux valeurs spirituelles, pour mieux profiter des congés nourris et, sinon blanchis, du moins lustrés de cette patine qu'offre la parodie du recueillement, la pantomime du repli intérieur, le théâtral étrangement aux médiocres réalités matérielles. Mais ce fut un homme aux prises avec le désespoir que nous accueillîmes, ou plutôt que notre Père supérieur accueillit devant nos yeux baissés et désaccoutumés aux incursions séculières. La réception eut lieu dans la grande salle à manger de bois où nous nous réunissions pour les occasions exceptionnelles, les repas étant pris dans un plus modeste et plus moderne réfectoire. Nous n'étions alors qu'une 20aine à demeurer dans ce prieuré de taille pourtant imposante, tant il est vrai que la vocation qui est la nôtre ne s'épouse plus que rarement de nos jours. Je n'eus d'abord qu'un réflexe de compassion, voire, je l'avoue humblement, de pitié quelque peu suffisante. J'osai un coup d'œil qui me fit voir que l'homme lui-même gardait le front bas, un front défait sur un visage tôt vieilli, qui avait été modelé avec une grâce superbe, mais que les rides déformaient à présent presque autant que la souffrance. Une souffrance si palpable que tous les frères en furent saisis, comme ils l'eussent été par le cri inattendu, tropical, d'une bête prise au piège. Il but d'un trait, comme on boit un poison volontaire, le verre de bienvenue qu'on lui tendit. La présentation fut expédiée dans un malaise qui se dissipa bien après que nous eûmes regagné nos cellules. Je fus désigné pour accompagner le peintre à la sienne, située 2 étages au-dessous de ma propre chambre. Nous longeâmes plusieurs couloirs où régnait un froid plus sinistre qu'à l'ordinaire. Surtout, je sentais ce froid pour la première fois depuis longtemps, et les impressions de mon arrivée au monastère 8 ans auparavant, alors que je n'étais qu'un novice égaré d'incertitude, me revinrent au corps avec d'autant plus d'intensité que je les avais sombrement et, croyais-je, définitivement enfouis. Une simple inclinaison de la tête nous sépara, mais j'eus le temps de capter et d'emporter avec moi comme un fétiche qui ne devait plus me quitter son regard de fièvre et de supplication. Le regard de qui a entrevu une vérité trop lourde et voudrait la partager, mais se sait condamné à en demeurer l'unique dépositaire. Nous le vîmes peu dans les jours qui suivirent. Il prenait ses repas à des heures imprévisibles, passait la plupart de son temps enfermé dans sa cellule ou déambulait à la nuit tombée dans les allées du cloître. La complaisance du père supérieur à l'égard des instances politiques ayant confié le vieux peintre à ses soins lui fit aisément tolérer ses fantaisies, pourtant bien peu conformes à l'existence réglée de notre confrérie. J'appris bientôt que l'homme avait été envoyé par le gouvernement afin de réaliser une œuvre visant à le réhabiliter. Peintre de renom sous le régime précédent, il avait été emprisonné durant de longues années après le coup d'État, ses travaux ayant été jugés subversifs par le nouveau pouvoir en place. Ce dernier lui offrait une chance de ressusciter sa gloire passée si toutefois il se pliait aux exigences de l'idéologie officielle. À nous qui étions étrangers à ces mouvements propres au monde séculier, ces considérations semblaient oiseuses. Mais pour lui, il en allait de sa création et donc de sa vie. Or, seule une révolution dans sa peinture apporterait la preuve incontestable de cette reddition, tant l'homme était connu pour son intégrité. Il était donc passé de la prison au prieuré, sans autre forme de procès. Le fait d'apprendre ces circonstances finit d'abattre en moi les préjugés que je m'étais formés avant de le rencontrer, préjugés déjà fortement ébranlés par le regard qu'il m'avait lancé sur son seuil. Ce ne fut qu'une 10 jours après son arrivée, et pour un temps d'une brièveté perturbante, que j'eus de nouveau l'occasion de me trouver seule avec lui. Je tombai sur l'homme au sortir de sa chambre, devant laquelle je passais pour m'acquitter de quelques corvées domestiques. À ma grande surprise, d'un geste brusque, il m'invita à entrer dans sa cellule. J'hésitais à peine. Y régnait l'atmosphère des lieux que l'on a préservés en l'état malgré la mort de leur occupant. Contrairement à ce que je m'étais imaginé, peu de choses témoignaient de son activité de peintre. Quelques toiles, encore blanches, reposaient contre le mur, et je pus deviner la forme d'un chevalet replié au pied du lit, discret et vaguement hostile. C'était tout. Il s'assit sur sa couche sitôt que nous entrâmes, sans m'inviter à faire de même. Je restai debout quelques minutes, n'osant le regarder, piétinant sans savoir que dire, lorsqu'il me demanda de sortir. J'entendais sa voix pour la première fois, une voix beaucoup plus jeune que son apparence physique ne le laissait supposer. Sans comprendre, mais sans non plus, étant peu familier du commerce des hommes, chercher d'explication à ce comportement pour le moins contradictoire, je m'éclipsai aussitôt.
Thank you.
voix haute, Meredith Ledez.
Après ce curieux épisode, je ne le revis plus d'une semaine et j'avais presque oublié sa présence parmi nous, mis à part la récurrence à certains instants de prière ou à l'orée du sommeil, de l'image qu'avait créée l'impression presque plastique de son regard dans le mien quand je le croisais de nouveau. Je ne sais s'il me fit tout à fait signe, mais une sorte de magnétisme, par lequel je compris confusément qu'en réalité il n'avait cessé de me hanter durant la semaine écoulée, m'attira vers cette pièce que mon imagination chargeait d'énigmes. J'en franchis donc le seuil pour la deuxième fois et pris aussitôt la liberté de m'asseoir, par une sorte de rébellion inconsciente contre la grossièreté de son précédent accueil. Ce petit acte d'orgueil sembla d'ailleurs ne surprendre que moi, car il reprit quant à lui sans autre réaction sa position sur son lit, position qui devait, ainsi que la mienne, me devenir très vite familière. Il commença à parler sans que j'eusse à lui poser la moindre question. Il décrivit son passé dans le détail, sa vie de peintre célèbre, puis sa chute soudaine dans les cachots de la politique. Surtout, il me parla de peinture. Je compris alors sans doute possible qu'il n'avait nullement l'intention d'abdiquer ses idéaux, dont le caractère contestable revêtait bien peu d'importance à mes yeux, tant les agitations humaines m'avaient toujours semblé vaines. Il voulait, par cette dernière opportunité qui lui était offerte de s'exprimer, clore le débat duquel on l'avait exclu et affirmer ses vues de manière définitive, se condamnant ainsi à l'enfermement perpétuel, voire à la peine de mort qu'avait rétabli le nouveau pouvoir. Mais bientôt, ces questions devinrent, même pour lui, indifférentes dans notre conversation, et ce n'est plus que d'art qu'il me parla longtemps, avec un enthousiasme qui me troubla. Je n'avais en effet, au fil de mes études, guère eu l'occasion de cultiver les connaissances profanes, et mon savoir en matière picturale se limitait aux œuvres pies, représentations bibliques et autres images sacrées qu'il m'avait été donné de découvrir dans le cadre de mon instruction en histoire religieuse. Je n'avais jamais soupçonné ce qui pouvait motiver un être en proie à la nécessité de faire œuvre. Le besoin de création m'apparaissait tel un simple mécanisme artisanal, inféodé à la représentation pédagogique de diverses paraboles ou scènes historiques. Ce fut une révélation. Je ne l'interrompis à aucun moment, de crainte qu'il ne se referme, et ce ne fut qu'après qu'il se fut tu que je me levai pour regagner, remuer en profondeur ma propre paillasse. Je ne dormis pas cette nuit-là. En vain, je tentai d'approcher l'état qui animait ce mystique païen, le rapprochant de l'exaltation qui, certains jours, avait pu me saisir au cours de prières d'une ferveur particulière. Ces transports mêlés de plénitude et de puissance qui m'avaient alors élevé au-delà de moi-même. Mais la comparaison demeurait imparfaite, car, tandis qu'en ces moments-là, je me sentais investi d'une force extérieure à ma volonté, je voyais bien que lui tirait cette force de lui seul, pour la porter à son tour au dehors et s'en emparer à nouveau, dans un jeu ou peut-être un combat, qui faisait de lui son propre adversaire en même temps que son allié. Cette habileté dans le négoce de soi avec soi-même me laissait à la fois curieux et reconnaissant du partage dont il me faisait l'honneur. De ce moment, pas une journée ne s'écoula sans que mon temps de liberté ne se passât tout entier à l'écouter, temps qui pouvait certains jours s'étendre à plusieurs heures. Il se prêtait volontiers à cette naïve fascination de ma part, sans doute nostalgique de l'admiration que l'on avait pu lui témoigner autrefois. Ce mystagogue de l'art pictural me livrait les clés d'un sacerdoce insoupçonné, d'une liturgie profane, brutale, charnelle, dont les rites m'échappaient et devant lesquels je faisais figure de catéchumène. Il m'initia à sa foi, comme du moins l'imaginais-je, on initie au plaisir physique, avec un pragmatisme à la fois gourmand et désintéressé. Ses toiles n'avaient pas bougé du mur où elles étaient appuyées, et je finis par être saisi d'un sentiment proche du désespoir, tout entier pétri du désir où j'étais de voir un échantillon de son œuvre, échantillon qui, j'en étais convaincue, en libérerait l'essence parfaite, fermentée par la subtile décantation des années d'enfermement et de frustration. Nul doute n'entachait en moi cette certitude, car il me semblait que des mains durablement liées ne pouvaient, une fois libérées, que transmuer en une surhumaine puissance l'énergie accumulée. Sans que me vînt un instant à l'esprit qu'un membre trop longtemps entravé pouvait aussi être frappé d'atrophie. Un jour où je l'interrogeai sur sa foi et lui demandai s'il avait coutume, avant son emprisonnement, de fréquenter l'église, il me fit cette curieuse réponse. « Cher ami, l'église nous sert à voir les autres humains dans leur fragilité, qui vient s'asseoir près de la nôtre sur d'étroites planches ou s'agenouiller sur un velours sali de cagne. J'ai consacré mon existence à combattre cet abandon à soi à travers l'autre. Je ne sus comment réagir, ayant toujours considéré la pratique religieuse sous l'angle de la transcendance et non du point de vue d'une individualité prise dans son rapport à ses semblables. Je soupçonnais alors combien j'avais à apprendre de cet homme et que ce ne serait peut-être pas tout à fait favorable à ma tranquillité d'esprit. Je ne trouvais jamais la force de lui demander raison de son comportement étrange du premier soir lorsqu'il m'avait expédié hors de sa chambre d'une simple phrase. Outre le fait qu'il m'impressionnait, il me faut préciser qu'il était parfois sujet lors de nos entretiens à des accès nerveux qui en marquaient la fin. En dépit de la douceur qui émanait en règle générale de sa personne, on pouvait percevoir les signes traîtres de cette fragilité dans l'exaltation de son regard et dans certains gestes prémonitoires, compulsifs, qu'il exécutait parfois sans retenue et qui le poussaient à arpenter sa chambre de long en large, ses paroles gagnant peu à peu en confusion, se transformant en éclats de voix qui me faisaient fuir, désarçonné par ce comportement si différent de ce que j'avais pu jusqu'alors éprouver de mes semblables. Je ne sais pourquoi, je ne m'ouvris jamais à personne de ces crises. Peut-être par respect pour cet homme qui me fascinait absolument, ou par la crainte égoïste que l'entrée d'une tierce personne dans notre intimité ne vînt la fissurer, voire ne mit fin à ces échanges dont j'avais, en si peu de temps, fait la substance de mon quotidien. L'une de ces attaques de nerfs eut toutefois des conséquences que je n'avais surpris par la dynamique d'un lâche évitement anticipé. Le ton de sa voix, augmentant d'une manière que j'avais apprise à reconnaître comme une préfiguration de sa fureur et partant comme le signal de mon départ, j'avais couru chez moi sans demander mon reste. Or sa crise s'était ensuite, en mon absence, muée en une véritable démence et ses hurlements avaient averti les frères. Ces derniers, s'étant précipités à sa porte, l'avaient trouvé dans un état d'épouvantable colère, dépenaillé, rouge, déchirant de ses ongles ses toiles toujours vierges. Un conseil fut tenu, dont l'issue me fut communiquée le soir même, l'ordre auquel j'appartenais ayant pour règle de ne se remettre à la médecine civile ni pour le traitement de l'âme, ni pour celui du corps. Le père supérieur avait décidé de convoquer l'unique famille du peintre. Celle-ci consistait en une fille d'une vingtaine d'années, seule à avoir maintenu un contact avec l'homme durant son emprisonnement. Il était naturellement très inhabituel de laisser une femme pénétrer dans l'enceinte de notre monastère, mais ce fut la décision que prirent nos supérieurs. Elle s'installa donc pour un temps indéterminé et, telle une moniale déplacée, vivait désormais parmi nous, selon des horaires aménagés, afin que nous ayons le moins possible l'occasion de la croiser. De cette décision, les effets se révélèrent très vite positifs, puisque la présence de sa fille à ses côtés non seulement sembla apaiser le vieux peintre, mais eut pour conséquence inespérée qu'il reprit ses pinceaux et commença enfin l'œuvre qu'il était venu accomplir chez nous. Je le compris à ce que sa chambre me devint alors interdite. Ses toiles que j'avais vues désespérément blanches, posées contre le mur de sa cellule, telles des promesses contre une paume, je les imaginais enfin offertes à la prestance du chevalet, sensuellement enduites, enorgueillies d'un soigneux habillage qui était comme l'effeuillement inversé des formes et des couleurs. Chaque soir, sur ma couche, Je rêvais la mise en scène du théâtre qui se déroulait à quelques mètres de moi, sans que je pusse y assister. Cette attente même devint un plaisir bouillant, celui de la frustration qui précède la libération du désir, l'explosion finale que serait le dévoilement de ce dont je ne doutais pas qu'il s'agirait d'un chef-d'œuvre. Je sentis dans ma chair et sans culpabilité aucune, des appels semblables à ceux dont j'avais fait l'expérience aussitôt avortée au cours de mon adolescence. Ces afflux de sang dans mon corps tout entier, contre lesquels j'avais assez aisément lutté, étant entré fort tôt et sans le moindre regret au service de notre Seigneur. Je pus alors m'abandonner à une innocente luxure et je mêlai dans mes prières les grâces rendues pour avoir eu le privilège d'une telle rencontre à l'humble impatience d'en découvrir enfin les fruits. Jouir de cette impatience fut la sensation la plus extrême que je ressentis jamais, corps et esprit également sollicités dans une confusion votive, me rapprochant encore du mystère de la révélation. Enfin vint le jour où cette attente devait être satisfaite. Ma joie fut à peine amoindrie de ce que la relation particulière au délicat plaisir entretenu durant ces quelques semaines devait prendre fin. L'accomplissement qui me serait livré, quoique bref, unique, serait à n'en pas douter infiniment plus sublime, une épiphanie définitive dans le halo de laquelle je pourrais terminer mes jours, dès lors transfigurée par l'avènement de la beauté en moi-même. Un matin, le vieux peintre nous annonça qu'il découvrirait sa toile devant la congrégation juste après vêpres. Cela disant, il m'observait avec un mélange d'angoisse et de satisfaction, et cette complicité singulière me transporta de joie. La journée se passa pour moi dans une vive fébrilité que l'habitude du calme intérieur, pourtant affermie par mes années de réclusion, ne sut tout à fait discipliner. Ma concentration, que Dieu me pardonne, au cours des différentes prières de la journée fut médiocre, et je tremblais presque en parcourant avec mes frères le couloir menant à la chambre du peintre. Il était convenu que nous entrerions un par un, l'exiguïté de la pièce imposant cette mesure, et plus encore la volonté qu'avait le peintre de donner à chacun l'occasion de se recueillir pleinement devant sa toile. Je demandai à être le premier par une coupable superstition, désirant que l'œuvre par laquelle l'essence divine me serait révélée ne soit souillée par aucun œil, hormis celui de son créateur avant le mien. J'entrai. D'un geste sec, un peu maladroit, le peintre dénuda sa toile. Je fus médusé. Je ne sais ce qu'il lut sur mon visage à cet instant, car je n'eus pas le courage d'affronter son regard. Je m'enfuis sans un mot. La lumière céleste qui aurait dû jaillir du rectangle de lin dont j'avais amoureusement détaillé les fibres en mon imagination n'était qu'un vulgaire emplâtre de couleurs nauséeuses, une superposition brouillonne de formes et d'aplats, une géométrie raide et sans vie de touches où, si j'avais eu la force de m'en approcher, j'aurais pu distinguer l'ignoble matérialité du trait de pinceau, les poils de la brosse parfois incrustés dans la pâte graisseuse d'huile et de pigments. Désespéré, je bousculai presque mes compagnons et me précipitai vers ma chambre. J'avais pour ce faire plusieurs volées de marche à franchir et je m'écroulai sur la troisième, secoué par un vertige de sanglots qui me rendit étrangère à moi-même, n'ayant jamais éprouvé de douleur qui approcha de celle-ci. Soudain, je sentis une main se poser sur mon épaule, une caresse infime qui suffit à me rejeter sur mes pieds. Aucune chair, depuis que j'avais quitté le refuge des bras maternels, n'avait effleuré la mienne, et ce fut comme une violente décharge dans tous mes membres. Je me trouvais face à face avec la fille du peintre. Elle me regardait avec douceur, compassion même, et un certain étonnement. Je détaillai son enveloppe d'oblate égarée, irréelle presque. Soudain, une rage m'envahit, la rage d'une frustration totale, en même temps qu'en mon esprit, une confusion fatale s'opérait entre l'œuvre désespérante de mon maître déchu et son œuvre de chair et d'os, celle qui se tenait devant moi, beauté irréprochable et lisse, lumineuse, mystique. un feu s'empara de moi qui m'entraîna à vouloir saccager, ou était-ce enfin posséder cette œuvre qui m'avait déçu. Je jetai la jeune femme au sol et, lui couvrant la bouche de ma main pour étouffer ses cris, je m'attachai à défaire son vêtement, à l'en dépouiller entièrement, reproduisant avec violence le geste de mon peintre lorsqu'il avait dévoilé quelques minutes auparavant la nudité de sa toile. Animé par le fol espoir d'enfin parvenir à la lumière désirée, je l'écartelai au sol après avoir noué son châle autour de son visage. Le corps étalé sous moi, je pétris la toile de sa peau, la brossai de mes doigts écartés en longues traînées rouges, y mêlai enfin une huile vierge, une crème blanchâtre et brûlante en un dernier sursaut de folie. Hébété, je contemplai mon œuvre impie. Immobile, dévastée, furieuse dans son silence muséal, dans sa prostration de relique, je l'abandonnai à sa perte et me précipitai dans la mienne. Je passai la nuit à délirer, déchiré entre la fièvre de la repentance et la nécessité de reprendre mon ouvrage, d'en parfaire la souveraineté divine, confondant toutes les créations dans le même mouvement, écrasé par le supplice de ma très coupable chair, et me voilà, n'ayant pu achever ces lignes, en cette aube funeste, secoué d'un désir qui m'étouffe comme un nid de liane glauque, obsédé par le massacre de mon amour terrestre, mon corps griffé de ronces térébrantes, et fiché dans l'oubli impossible, d'une ultime confession. C'était la dernière toile, une nouvelle d'Emmanuel Favier, extraite de « Toutes ces choses qui passent » aux éditions Rhubarbe. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle lecture.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.